Marceau s'en vient à demain.
Boulevard 102.1, la radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas.
Wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco, pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister au show de vos bandes préférées.
Quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes puisque j'ai le plaisir de retrouver un collaborateur de longue date. Son nom, c'est Dr. Joël Mosé, il est docteur en neurosciences. Monsieur Mosé, comment allez-vous? Bon retour sur les ondes de Boulevard.
Ben merci, je vais très bien. J'espère qu'il en est tout de même pour vous et pour les éditeurs.
Ouais, vous avez pris des couleurs cet été, Monsieur Mosé. Vous avez vu beaucoup plus le soleil que moi. Là. Je ne sais pas si c'est l'éclairage, là, mais moi, je suis blanc et vous, vous avez une belle teinte. On dirait que vous revenez de vacances.
Oui, non, pas tout à fait de vacances, mais je reviens de l'Ouest où j'ai passé quelques semaines. Il y a eu une partie de vacances et puis une partie où je fais du développement de programmes d'intervention dans les écoles pour qu'on puisse venir en aide en fait aux enfants et aux adolescents pour qu'ils puissent arriver à réussir leur année scolaire dans les meilleures conditions possibles.
Un docteur en neurosciences qui va faire son tour à Jasper en Alberta. Comment ça a été? Tu as passé quoi, 6 à 7 semaines-là?
Oui. Oui, ben c'était. Moi, j'aime beaucoup. C'est la troisième fois, en fait. Ça fait plusieurs années que je fais de la formation virtuelle en Alberta, mais depuis, ça fait 3 voyages que je fais là-bas où je reste à chaque fois quelques semaines. Et c'est vraiment des communautés francophones qui sont très stimulantes. En fait, les gens sont plus tissés serrés que ce qu'on peut voir malheureusement chez nous parfois. Et qui plus est à Jasper avec le drame qu'ils ont vécu cet été. Oui, c'est des belles communautés, en fait.
Puis, je veux dire, la beauté du paysage devait être incroyable. Bon, les incendies, est-ce qu'il y en avait quand même quand t'es passé cet été? Est-ce qu'il y a des incendies qui faisaient rage quand même?
Oui, oui. Écoutant l'année dernière, on a dû abréger nos vacances en Colombie-Britannique. L'année dernière, cette année, ça a été Jasper. Écoute, il y a environ 30% de la ville qui, malheureusement, est passée au feu. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie de la ville qui a été ravagée. Heureusement, les bâtiments publics comme les écoles, la caserne des pompiers, l'hôpital ont survécu, ce qui fait que ça permet quand même d'avoir des infrastructures en cas de besoin pour les gens. Mais c'est certain que c'est terrible. C'est un peu comme les personnes qui ont vu le centre de Mégantic suite au drame que la ville a vécu il y a quelques années. Ben, imaginez ça sur 30% d'une ville de 5000 personnes. Donc, c'est énorme. Écoute, tu as environ 20% des élèves qui ont perdu leur maison. Tu as un professeur sur deux qui a perdu sa maison, tout au moins dans la communauté francophone. Donc, il y avait... J'ai eu l'opportunité, en fait, de faire un accompagnement de ces personnes-là à leur demande pour pouvoir les aider, en fait, à mieux comprendre ce qui allait se passer. Et le processus aussi qui était en lien avec l'anxiété, l'éco-anxiété dont nos jeunes souffrent beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est différent d'imaginer, parce que depuis toujours, les gens de Jasper disaient « on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura un feu ». Oui, mais c'est cette année qui est arrivée. Et il y a une différence entre savoir qu'un jour ça va venir et devoir gérer la réalité. OK, là, le feu, il est passé. Et en même temps, ben, ça a amené des élans de solidarité chez ces personnes-là, qui est fabuleux, entre autres, des interventions que j'ai faites dans le village. On était dans un restaurant qui n'avait pas encore ouvert, mais le propriétaire, c'est un des rares restaurants qui est encore debout. Lui, sa maison, elle est correcte. La maison de ses employés, elle est correcte. Donc, il ne demande que ça, c'est de réouvrir son restaurant. Pas nécessairement pour faire de l'argent, mais juste pour que les gens aient un lieu de rassemblement. Et donc, comme le restaurant n'était pas ouvert, en fait, C'est là que j'ai rencontré la communauté. J'ai fait des ateliers pour pouvoir les aider, en fait, à comprendre, les aider à se comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs enfants, leurs adolescents qui vont vivre des choses pas toujours nécessairement faciles. Et ce qui est très particulier, puis ça nous mêle beaucoup, nous, les adultes, parce que pour l'instant, je parle de Jasper, mais c'est la même chose au quotidien dans nos familles, quand nos familles traversent des choses qui sont difficiles. Mais pour me préparer à aider les personnes justement à Jasper, j'ai plongé dans la littérature, notamment de ce qui s'était passé à Mégantic. Et il y a eu beaucoup d'interventions auprès des adultes, les papas, les mamans, le personnel qui était intervenu, les pompiers et autres. Il y a des données scientifiques qui ont été colligées à travers ces interventions-là. Et c'est au bout de 4 ans que les gens se sont dit, tiens, on n'a pas de données sur comment vont les jeunes. Parce que, bah, tu sais, les jeunes, ça s'adapte. C'est une phrase qu'on a entendue beaucoup pendant la pandémie, les jeunes, ça s'adapte, et on oublie à quel prix ça s'adapte. Et en fait, au bout de 4 ans, ils ont donc commencé à observer les jeunes, et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la presque totalité des jeunes n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'être capable de se relever quand on vit de l'adversité, sans estime de soi, c'est extrêmement difficile. D'accord? Donc, ça fait des personnes qui sont beaucoup plus à risque d'avoir des comportements d'auto-sabotage ou d'avoir des comportements de dépendance et autres. Et quand on regardait les idées suicidaires chez ces jeunes-là, il y avait 2 fois plus de jeunes à Mégantic qui avaient des idéations suicidaires que la moyenne au Québec. Donc, comme je disais tantôt, c'est que parfois, quand on voit nos jeunes, on a l'impression qu'il va bien. Et finalement, ben, on fait peut-être un peu moins attention à ce dont il aurait besoin pour pouvoir aller mieux. Et c'est souvent quand le jeune n'en peut plus, qu'il est à veille de, excuse-moi l'expression en anglais, mais je la préfère à l'expression française, qui va collapser, d'accord? Donc, qui va s'effondrer. C'est quand le jeune est à veille de s'effondrer que là, ou quand il s'effondre, que là, on se rend compte que, hop là, ça fait longtemps qu'il n'allait pas bien.
Ouais.
Et moi, tout le travail que je fais, tu sais, tantôt quand je te disais, je travaille dans les communautés, mais je fais la même chose pour la santé publique et les centres de services scolaires à travers le Québec, c'est d'essayer d'identifier les signes à quel moment nos jeunes ne vont pas bien et de créer un climat, d'accord, parce que l'école ou la santé publique n'a pas de contrôle nécessairement sur ce qui se passe à la maison et parfois la situation problématique ne demande pas, et c'est parfois une bonne chose, que la DPJ intervienne, mais le jeune n'est pas nécessairement bien quand il est dans un environnement familial parce que papa et maman vivent des difficultés, parce que c'est une famille recomposée, c'est tous les enjeux des familles recomposées, parce qu'il y a peut-être une perte d'emploi, parce qu'il y a peut-être un manque de ressources financières et autres. D'accord? Et ce qui fait en sorte que l'école peut devenir un lieu dans lequel le jeune peut se sentir en sécurité. Et ça fait en sorte que si on peut amener les enseignants et les équipes écoles ou les intervenants qui sont dans le milieu scolaire à prendre mieux conscience, en fait, des enjeux de nos jeunes, mais à ce moment-là, on peut faire de l'intervention préventive. Et on travaille sur le climat de l'école plutôt que d'attendre que le jeune se désorganise et qu'on croit qu'il a un TDAH ou que le jeune est anxieux ou que le jeune commence à développer des troubles obsessifs compulsifs ou des comportements d'intimidation, de la violence et ainsi de suite, qui ça sont pour moi des épiphénomènes qui auraient pu être évités la plupart du temps si on avait fait des interventions précoces.
Intéressant. Tu as été à Jasper, c'est une communauté qui est quand même assez isolée dans les montagnes. Est-ce que tu remarques une différence? Puis moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué peut-être à plus petite échelle, là, mais quand je suis parti du centre-ville de Québec, puis j'ai été m'établir en Beauce, j'ai constaté que les gens vivaient peut-être un peu plus au ralenti. Il y avait peut-être un peu moins de stress. Plus de gens qui étaient à l'extérieur aussi, quand on se promène en banlieue de Québec pendant la fin de semaine, les gens, on dirait qu'ils sont encore à l'intérieur de leur maison, même l'été. Je trouve ça parfois un peu aberrant, mais en même temps, c'est leur vie. En Beauce, c'est tout à fait le contraire. Les gens prennent possession de leur terrain, sont dehors la plupart du temps. Est-ce que il y a une différence entre les enfants qui vivent dans les centres-villes et les enfants qui vivent dans des endroits peut-être un peu plus isolés?
Moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est oui. Et on le voit, par exemple, on parlait de Jasper tantôt, mais je vais faire une différence avec Banff. Banff est une ville qui est beaucoup plus effervescente, beaucoup plus stimulante à la rigueur. J'aurais envie de dire, c'est plus proche de l'écosystème des Laurentides.
OK.
Donc, ils vont faire beaucoup d'activités plus. C'est ça. Il y a une effervescence qu'on va avoir, alors que tu as la Beauce, tu as l'Estrie, où c'est beaucoup plus calme. Et Jasper, les gens sont beaucoup plus associés au plein air. Donc, ils vont faire des longues randonnées, ils vont avoir une vision très écologique de l'environnement dans lequel ils sont, ce qui ne leur a pas empêché malheureusement de vivre le drame qu'ils ont vécu cet été. Mais ça fait en sorte que oui, je pense que les jeunes qui vivent à la campagne sont dans des environnements qui, heureusement, vont être plus calmes. Ce qui peut être plus délicat, c'est quand les parents ont des difficultés financières. Parce que tu vas avoir des ressources au niveau des villes que tu n'auras probablement pas dans les campagnes. Donc, si la famille est en difficulté, elle a plus tendance à être isolée dans les campagnes, alors qu'il y a plus de BNL, il y a plus de services dans les grandes villes. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je crois que ce que nous avons à faire, puis tu sais, on parle beaucoup de renforcer le français, notamment au Québec, je crois que c'est plus on va recréer des micro-sociétés, des micro-communautés, où on va s'entraider les uns les autres. Je crois que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va aller mieux, qu'on soit dans une ville ou qu'on soit à la campagne, on devrait arriver à avoir des gens qui sont en meilleure santé, en fait, à travers tout ça.
Parce que je pense qu'on a tous à apprendre de ces gens-là qui vivent dans des régions un peu plus éloignées. C'est plus tissé, serré. Alors qu'au centre-ville de Québec, on se dit, ou au centre-ville de Montréal, on connaît même pas notre voisin qui peut partager des fois le même mur, tu sais, le même mur de chambre. Le voisin est l'autre côté, toi, tu es l'autre côté. Puis quand vous vous croisez dans le corridor, vous vous regardez à peine ou on se salue peut-être. Même affaire pour ce qui est des banlieues à Québec. Tu sais, les gens se disent bonjour, mais ne se côtoient pas nécessairement, tandis que quand ils sont dans des régions plus éloignées, ou même les gens quand ils sont en vacances, tu as déjà connu les fameux resorts au Mexique, là, où tout le monde se souhaite le matin, tu sais, passer une belle journée, comment ça va, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Les gens sont plus portés à se jaser. On a quelque chose à apprendre des gens, des régions peut-être un peu plus éloignées. Puis si on peut adapter ça chez nous en ville, je pense que ce serait au grand bénéfice de nos enfants, là. Alors,
Oui,
lâcher la pression une fois de temps en temps.
tout à fait. Puis il faut aussi inverser le climat dans lequel on a évolué pendant la pandémie, parce que il y avait deux choses. La première, c'est qu'on s'est fait dire continuellement que notre voisin pouvait nous tuer, d'où l'isolement qu'on nous a imposé pendant des mois. Donc c'est pas évident de vouloir tendre la main à quelqu'un quand on a eu pendant 2 ans, 2 ans et demi peur que cette personne-là nous transmette un virus et mette fin à nos jours, ou à travers nous mette fin au jour de quelqu'un qui nous est très proche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment inverser. Puis on voit encore les réactions parfois de certaines personnes dans les centres d'achat ou dans des grands magasins quand quelqu'un tousse ou l'autre. Il y a un degré de panique qu'on n'avait pas avant la pandémie. Et l'autre chose, c'est le degré de suspicion quand on encourageait les gens à dénoncer le voisin qui ne respectait pas de manière adéquate les mesures sanitaires. Je ne dis pas que le voisin avait le droit de ne pas respecter les mesures sanitaires, mais de là à le dénoncer, c'est certain qu'on est dans une dynamique qui n'est malheureusement pas très saine pour favoriser une communauté qui s'entraide quand ça ne va pas, tu sais. Alors que si les gens peuvent s'entraider, ben on se passe, non seulement on peut se passer du sel, mais on peut peut-être se passer traiter la tondeuse, on peut s'entraider pour pouvoir changer une roue sur la voiture, on peut faire dans certains quartiers, tu as le dîner des voisins, qui peut être aussi une belle manière de pouvoir apprendre à cohabiter les uns avec les autres dans certains quartiers. Donc plus les communautés vont être tissées serrées, et plus ça va être facile de passer à travers tous les défis qui nous attendent à travers la vie.
On parlera tout à l'heure de la nouvelle année scolaire qui se dresse devant nous avec nos enfants, mais juste avant, j'aimerais jaser avec toi de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. C'est quoi ça exactement, cet institut-là?
En fait, c'est un institut que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. L'objectif, c'était de faire de la recherche, d'intervention clinique et des formations. Et puis, il a évolué au fur et à mesure du temps, ne serait-ce que parce que j'ai arrêté de faire de la clinique depuis quelques années, parce que je manquais de temps. Puis, tu sais, d'essayer de stimuler une équipe de travailleurs autonomes à collaborer ensemble, c'est peut-être pas nécessairement toujours facile. Puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, j'en ai fait assez. Donc, le côté clinique a disparu progressivement. Et puis, les formations, je les ai transférées à l'IPNS, l'Institut de psychologie et de neurosciences, parce que c'était une destination ou une manière de présenter beaucoup mieux les choses. Ce qui fait que l'IDEF a modifié progressivement comment dire, sa mission. Et aujourd'hui, bien, ce qu'on fait, c'est on analyse des phénomènes de société. On regarde ce qui se passe. On regarde qu'est-ce que la littérature nous donne, qu'est-ce que les gens racontent. Et on propose en fait des documents de réflexion qui sont généralement adressés aux institutions ou surtout au gouvernement. Donc, ce sont des avis, ce sont des mémoires, ce sont des rapports. Par exemple, tu m'avais interviewé il y a quelques mois sur l'évolution du nombre de prescriptions de psychotropes chez nos jeunes. Donc ça, c'était un gros rapport de recherche que j'ai publicisé au mois de mars de l'année dernière. Alors, j'en ai fait un autre sur l'éducation pacifique. Donc comment est-ce qu'on peut, parce que parfois la bienveillance, elle est mal, le concept de bienveillance est mal utilisé par certaines personnes qui confondent le laxisme avec la bienveillance, alors qu'au contraire, la bienveillance demande à ce qu'on soit très présent auprès de nos enfants. À la rigueur, c'est plus facile d'être dans une discipline de type abusive ou conditionnement opérant et prendre un peu de recul que d'être bienveillant. La bienveillance, ça travaille avant toute chose le lien, la qualité du lien qu'on a avec nos jeunes, donc ça demande une proximité, ça demande une connexion beaucoup plus présente. Donc quand on laisse l'enfant tout faire, ben, c'est tout sauf de la bienveillance. Bref, comment pouvoir arriver à utiliser ces concepts-là avec moins d'erreurs conceptuelles. Mais c'est pour ça que je parle maintenant d'éducation pacifique, de communication pacifique, parce que dans la manière dont j'interagis avec autrui, eh bien, je peux être en colère, je peux être fâché, je peux être en désaccord, mais comment est-ce que je peux nommer les choses en restant une personne pacifique? Et si je dois faire une intervention envers mon enfant ou envers mon adolescent, comment est-ce que je peux rester pacifique, mais je suis le papa, ou je suis l'enseignant, ou je suis l'éducateur, ou je suis le directeur de l'école, je suis le policier? D'accord, parce que j'ai eu l'occasion de faire des projets pilotes avec la police à Montréal sur ces mêmes valeurs-là. Et c'est encourager une manière d'intervenir auprès d'autrui qui est beaucoup plus respectueuse en fait, des uns et des autres. Donc, on essaie vraiment de ramener un petit peu qu'est-ce qu'on connaît de la vie, qu'est-ce qu'on connaît des phénomènes, qu'est-ce qu'on connaît des neurosciences et de faire des propositions aux parents, aux enseignants, aux médecins, au gouvernement pour... par exemple, essayer d'améliorer la société dans laquelle on est.
On va parler de l'ère numérique, bien entendu, mais juste avant, tu m'as fait réfléchir sur un truc, une discussion que j'avais avec un autre père qui, lui, est littéralement un ami avec ses deux garçons. Et moi, de mon côté, je suis un père avec mes deux gars. Parfois, je dois prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur propre petit bonheur à eux. C'est-à-dire, bon, ben les gars, on est vendredi, ça fait 2 heures que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous jouez à des jeux vidéo. Là, c'est terminé, puis on passe à d'autres choses. On va faire une activité ensemble ou vous trouvez une activité à faire à vous deux. Mais les jeux vidéo, c'est terminé. Donc là, tu comprends que je ne suis pas leur ami, je suis leur père. Puis j'accepte d'être leur père, même si des fois, c'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que dans les dernières décennies, il y a des pères qui ont eu idée de devenir amis avec leurs jeunes enfants? Je pense que quand tu arrives à 50 ans, puis ton père, il a 70, puis tu le considères comme ton chum, ton père, c'est correct. Mais pour de jeunes enfants... Le rôle de père, à mes yeux, à moi, est hyper important. Puis si on se substitue à ce rôle-là en disant « Non, moi, je préfère être un ami avec mes enfants, ils vont se sentir plus près de moi », j'ai l'impression qu'on erre un peu sur le travail qu'on a à faire d'éducation.
Mais je pense que, comme papa, on n'a pas beaucoup de modèles dans les générations qui nous ont précédés. Donc, on cherche. On avait des pères absents, on avait des pères très autoritaires, parfois abusifs. On avait des pères qui étaient des hommes roses dans la génération des boomers.
C'est vrai.
On s'entend que ce n'est pas nécessairement un modèle qui a convenu ou qui convenait à la génération Y ou la génération X. D'accord? Donc, les modèles ne sont pas nécessairement adéquats et il a fallu s'inventer comme papa. Et je crois que certains pères ont tellement voulu faire autre chose que d'être dans une position d'abus ou dans une position d'absence. Comme ce qu'eux-mêmes avaient vécu quand ils étaient enfants, qu'ils ont confondu être un ami et d'être le papa. Moi, j'aime beaucoup distinguer le papa, qui est plein de bienveillance, qui est plein de douceur, qui va faire un câlin avec son enfant ou avec son adolescent, qui rentre vraiment dans une relation de cœur à cœur, versus le père. Et ça va être la même chose pour la maman et pour la mère, où la posture du père, c'est de mettre des limites à notre enfant. Et quand moi j'ai mes enfants qui font des gaffes, ben je vais leur mettre des limites. Je n'ai pas joué un rôle d'ami avec eux, mais j'ai une proximité, surtout avec mon fils. En fait, je suis dans une famille reconstituée, donc j'ai deux beaux enfants qui sont nés d'un premier mariage de ma conjointe qui aujourd'hui ont 20 ans. et j'ai un garçon qui a 14 ans et demi, mais j'ai une relation avec mon garçon qui est extraordinaire, mais je suis à la fois son père et son papa. Donc, quand il faut mettre des limites, je vais mettre des limites, mais quand il faut que je prenne du temps pour m'asseoir avec eux, avec lui, discuter avec lui, communiquer, l'aider à grandir, à se faire du sens avec tout ce qui peut se passer dans une adolescence, mais je vais pouvoir y aller plus dans une approche, plus cœur à cœur avec lui, mais ce qui ne m'empêche pas de lui mettre, comme je disais tantôt, et comme ce que tu fais aussi, Yannick, que tu mettes aussi tes limites comme père, en fait. Il faut jouer sur les deux tableaux.
C'est de l'accepter aussi, ce rôle-là qui peut être bien ingrat. Tu sais, nos enfants, des fois, ne sont pas toujours au courant de la valeur des mots qu'ils utilisent. Mais tu sais, quand je prive mes enfants d'une troisième heure de jeu vidéo, je peux me faire traiter parfois de pire père du monde. Mais je l'accepte parce que je sais que lorsqu'ils seront plus grands, ils se rendront compte de ce que j'ai fait pour eux. Puis que, bon, oui, j'ai limité les heures de jeux vidéo, mais je ne les ai pas empêchés. Il y a eu 2 heures où ils ont eu du plaisir. Mais je veux qu'ils fassent d'autres choses, que ce soit peut-être un peu plus ludique, où ils peuvent aller faire un tour dehors si le soleil n'est pas parti, puis on voit encore clair. Ou parfois, on peut juste être dehors sur la terrasse, puis jaser, puis s'amuser, puis se dire des choses drôles. Mais c'est d'accepter des fois d'avoir un rôle ingrat, puis de se faire dire qu'on est les pires pères du monde. Des fois, pour certains, ça semble être difficile à accepter, tu sais, mais c'est juste des enfants. Là. Ils pèsent pas la valeur de leurs mots. Puis on n'est pas mieux de les laisser constamment faire ce qu'ils veulent avec les jeux vidéo, rester tout le temps dans la maison. C'est, avant, Joël, quand on était petit, toi et moi, la punition, c'était de rester en dedans. Mm-hmm. Ben là, aujourd'hui, la punition, pour certains du moins, moi, je ne suis pas encore arrivé là.
De sortir.
Mais pour certains, c'est de les faire sortir dehors. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est rendu là? Est-ce que c'est l'ère du numérique qui nous a amenés là? Est-ce qu'on est des parents plus fainéants que nos parents qui nous obligeaient parfois à aller dehors parce qu'il y avait des choses à faire à l'intérieur de la maison? T'sais, ton regard en tant que docteur en neurosciences là-dessus?
Mais je crois en fait qu'on a tellement peur de reproduire les modèles dans lesquels nous, on a été blessés comme enfants, qu'on se confond en fait. Il y a un enjeu, bon, j'appelle ça un enjeu de frontière. On n'arrive plus à sentir à quel moment je dois jouer à la rigueur le rôle de papa ou le rôle de père. Et je préfère jouer l'ami, comme ça je me pose moins de questions. Quand tu dis stop à ton jeune parce qu'il a passé 2 heures devant un écran à faire des jeux vidéo, tu sais que si tu ne le fais pas, oui, il va peut-être dire des choses qui vont te faire de la peine. Mais surtout, tu vas le faire parce que tu veux être cohérent avec ce que tu connais. Et puis, à force qu'on ait jasé ensemble, que tu as certainement jasé avec d'autres spécialistes, tu sais qu'il y a un moment donné où le numérique commence à devenir toxique pour le système nerveux, pour le cerveau du jeune. Donc, comme tu le sais que ce n'est pas une bonne chose, tu vas pouvoir, toi, mettre une limite. Tu t'es informé, tu t'es renseigné, tu as pesé le pour et le contre avec leur maman. Et donc, l'un avec l'autre, ben, tu te positionnes. Et c'est ça qui, parfois, est difficile pour un parent. Premièrement, on peut avoir des valeurs qui sont différentes entre la conjointe et le conjoint. Parfois, il y a des mamans qui ne laissent pas non plus la place au papa ou au père. Une expression que j'ai entendue des millions de fois, c'est « moi, j'ai 3 enfants, 2 que j'ai mis au monde, le 3e que j'ai épousé ». Donc là aussi, on voit qu'il y a un enjeu de frontière entre la maman et le papa, où la maman considère que la manière dont le papa éduque l'enfant, c'est plus un enfant qu'un adulte. Donc automatiquement, il y a un enjeu de frontière aussi, il y a un enjeu de responsabilité. La maman se retrouve avec toute la charge mentale de devoir gérer le tout, mais elle a sa part de responsabilité si elle ne laisse pas de la place au papa. Et le papa doit apprendre. Le papa doit faire des expériences. Ça veut, tu sais, moi, par exemple, ça arrive moins aujourd'hui, mais plus tôt, c'était quand nos enfants étaient plus jeunes, il n'y avait pas une seule semaine sans que ma femme et moi, on s'assoie pour discuter de nos enfants. Il y a des choses qu'elle a vues, moi, je n'ai pas vues. Il y a des choses que j'ai vues et qu'elle n'a pas vues. On doit se coordonner. C'est certain qu'on n'est pas nécessairement toujours d'accord.
Il y a même qui baisse de tout ça.
Mais on essaye de trouver, une certaine cohérence comme parent. Donc, ça demande de pouvoir discuter avec son partenaire ou sa partenaire. Mais si, comme parent, on n'a pas ce temps-là parce qu'on est submergé par un paquet de tracas, si qu'après des grosses journées de travail, d'avoir couru après les commissions, d'avoir été le proche aidant de nos parents parce que nos parents sont vieillissants et ainsi de suite, on a une fatigue mentale qui fait en sorte qu'on n'a pas ce temps nécessaire avec notre conjointe ou notre conjoint pour discuter de nos valeurs. Mais automatiquement, ça fait que on est tout le temps en train de courir après notre queue, tu sais, comme un chien qui tourne en rond, et on n'arrive plus à se positionner comme 2 parents, éventuellement 2 beaux-parents, donc on est 4 parents, à décider qu'est-ce qui est le mieux pour les jeunes qu'on accompagne et comment est-ce qu'on peut être le plus cohérent possible, même si on est séparés, dans les deux maisons, comment est-ce qu'on peut avoir minimalement une certaine cohérence pour que nos jeunes soient capables de pouvoir arriver à développer leur discernement et par eux-mêmes, un jour, ils vont appliquer les valeurs qu'on a essayé de leur enseigner.
Oui, puis parfois, c'est pas toujours évident non plus. Quand on rencontre une nouvelle conjointe puis elle a ses propres enfants, des fois, les règles qu'on s'était mis ensemble, moi et la mère, peuvent être différentes avec notre conjointe versus ses enfants à elle. Donc, d'arrimer nos valeurs avec la nouvelle conjointe versus l'éducation de nos enfants, ça, c'est pas nécessairement facile. T'sais, de mon côté, moi, ça a tout le temps été de la rigueur, puis c'est toujours la même chose. Je suis le gars le plus plat de la terre parce que j'ai toujours la routine, mais en même temps, avec les enfants, la routine, ça fonctionne bien. Il y avait une heure précise où les enfants devaient aller se coucher la semaine lorsqu'il y avait de l'école le lendemain. Bien, elle était beaucoup plus tôt que celle des filles de ma conjointe. Donc, moi, j'ai jasé de ça un peu avec ma conjointe et elle s'est entendue avec le père de ses enfants sur une heure. Puis moi, ben, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai gardé la même routine qu'ils ont avec leur propre mère à la maison, c'est-à-dire à 8h30, tout le monde doit faire dodo dans leur chambre. Merci, bonsoir. Pour ce qui est de la mère, pour ce qui est de ma conjointe avec ses enfants, ben eux, comme elle a un an de plus que mon plus vieux, ben elle peut se coucher à 9h. Donc j'ai jasé de tout ça avec mon plus vieux, puis il était tout à fait d'accord que comme elle était plus vieille, elle avait le droit de se coucher plus tard. Mais je te dirais, Joël, que ça, au début, là, ça bouettait un peu là, sur les façons de faire dans la maison, parce qu'on doit s'arrimer avec notre conjointe puis notre conjoint. Là.
Tout à fait. Puis nos jeunes vont tester aussi les limites. Les jeunes, quand on leur dit non pour quelque chose, s'ils apprennent que, de toute façon, il dit non une fois, mais dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, il va me dire oui, bon, ben ça vaut la peine que je négocie. D'accord? Et si de guerre là, je lui dis oui alors que j'ai dit non il y a 15 minutes, ben le jeune, c'est simplement, ben, OK, quand je veux vraiment quelque chose, je vais tenir mon bout et mon père ou ma mère va céder. Et en fait, l'idée là-dedans, c'est que le jeune, dans une situation pareille, va être beaucoup plus insécure que si on maintient notre oui ou notre non. Le tout, c'est de savoir pourquoi je dis oui ou pourquoi je dis non. C'est la même chose par rapport aux écrans. Je dois réfléchir, quelle est ma motivation? Est-ce que c'est parce que je veux imposer mon autorité de parent ou, en mon âme et conscience, j'estime qu'à 8h30, il est temps que mon jeune de 8 ans aille dormir et j'accepte que ma jeune de 9 ans aille dormir une demi-heure plus tard. D'accord? Mais je vais peut-être demander plus de choses à ma grande de 9 heures. C'est-à-dire que je vais lui demander de ranger de la vaisselle, je vais lui demander peut-être de faire attention pour que ses deux petits frères ou ses deux beaux-frères puissent être calmes dans le bus. Je vais peut-être lui donner un peu plus de responsabilités qui vont aller avec un peu plus de privilèges aussi. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, pour les plus jeunes, je peux leur dire « Oui, ta grand-sœur, ton grand-frère a plus de privilèges, mais regarde, je lui ai demandé plus de choses aussi. » D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une équité entre les jeunes et il y a une histoire de normalité en fonction de l'âge et des ressources de chacun, en fait.
On parle de l'ère numérique. Quand j'étais faire un tour sur l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, c'est un site Internet, institutdef.ca. On parle d'une réalité technologique qui est incontournable, qui change nos modes de vie, puis ça va continuer dans les prochaines décennies, bien entendu. Qu'est-ce que l'ère numérique nous a amené à nous en tant que parents ou en tant qu'êtres humains, de positif versus le négatif? Même chose pour ce qui est des enfants. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'ère numérique, on la comprend peut-être un peu mieux, on est un peu plus capable de vivre avec elle, puis essayer justement que nos enfants ne tombent pas dans les pièges. Puis même nous, là, des fois, on arrive à la table puis on regarde autour de la table, tout le monde est sur leur cellulaire. De quelle façon tu vois ça, toi?
Mais ce que je te dirais, c'est que l'ère numérique est en un certain sens quelque chose de vraiment... ça offre plein d'opportunités. Par exemple, quand j'écris mon livre, c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre sur un ordinateur, de me corriger, de me recorriger, de me re-recorriger au besoin sur l'ordinateur que la manière dont j'ai écrit ma première thèse il y a 30 ans, où c'était à la mitaine, après on passait éventuellement à la machine à dactylo, puis quand tu faisais une faute, ça paraissait, tu pouvais peut-être revenir un peu en arrière, mais tu voyais toujours qu'il y avait une trace, que tu avais fait une erreur de tapping à un moment donné, donc c'était pas nécessairement toujours très, très joli. Donc, on va gagner en efficacité, on va gagner en En plaisir. J'ai jamais eu une aussi bonne orthographe aujourd'hui parce que quand j'écris, c'est souligné en vert ou en rouge quand je fais une faute, alors que quand j'étais enfant ou adolescent, mais il fallait que je mémorise beaucoup plus les règles de grammaire ou les règles d'orthographe. D'accord? Donc, il y a des avantages qui sont là. Actuellement, le numérique, ben, écoute, l'entrevue que l'on a pour le moment, elle est efficace parce que l'ère numérique est là. On est à 400 km l'un de l'autre pour pouvoir échanger. On est en train de se voir. Bon, nos auditeurs ne nous voient pas pour l'instant, mais toi et moi, on se voit grâce, en fait, à une vidéo. On est capable de pouvoir parler. Ce qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire. Quand tu m'interviewais il y a 10 ans, je montais à Québec, dans ton ancienne famille radiophonique. D'accord? Et j'allais sur place pour pouvoir faire l'entrevue. Ce n'était pas possible que je puisse rester chez moi. Donc, il y a toute une série d'avantages de l'ère numérique. Le problème, c'est que comme on est saturé, eh bien, c'est comme si tu parlais tantôt du téléphone, on ne tolère plus d'avoir un 2 minutes de silence, on ne tolère plus d'avoir un 2 minutes où on ne fait pas quelque chose, on est toujours à la recherche de quelque chose, on a la difficulté. Puis je fais partie des personnes qui, tu sais, j'ai une équipe à gérer, j'ai des beaux projets dans lesquels je suis impliqué, mais oui, ça peut m'arriver 2, 3 fois par soir, par réflexe, de regarder si un courriel est rentré ou pas, parce que j'attends en fait une réponse d'un collaborateur ou de quelqu'un, parce que mon équipe travaille à des horaires différents et sur des continents différents, donc automatiquement, je peux recevoir des courriels à différents moment de la journée ou de la soirée, mais veut pas, d'accord, c'est le droit de se décrocher, d'accord, de notre cellulaire est quelque chose qu'on s'accorde de moins en moins, ce qui fait que petit à petit, on est de plus en plus sous tension. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Yannick, il y a des toilettes où au-dessus des urinoirs, tu as des télévisions dans les hôtels. Donc, tu sais, t'as 30 secondes dans les toilettes et tu as une télé. Tu vas dans une station d'essence, il y a une marque qui s'est différenciée là-dessus. Tu vas dans cette station d'essence, une chaîne, et tu as des téléviseurs qui diffusent une télévision de nouvelles 24-7. D'accord? Et là aussi, tu n'es plus capable de pouvoir mettre de l'essence en restant les 2 minutes nécessaires. Tu as automatiquement quelque chose qui te donne accès aux mauvaises nouvelles et aux publicités de manière non-stop. Ce qui fait que si nous, comme adultes, on a de la difficulté à décrocher alors que normalement notre cerveau est suffisamment développé pour être capable de dire non à l'hyper-sollicitation numérique, imagine pour nos jeunes comment c'est dur de renoncer à un jeu vidéo, c'est dur de ne pas être sur le réseau social à la mode pour communiquer avec les copains et les copines, c'est dur de ne pas vouloir devenir un influenceur ou une influenceuse parce qu'on a tellement l'impression qu'ils ont une belle vie en voyageant à travers la planète et qu'ils gagnent de l'argent facile, ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué pour nos jeunes de décrocher tout ça. Tu parlais tantôt d'être à la campagne. Pour les jeunes qui sont à la campagne, à la rigueur, ils peuvent sortir. Il y a un pré, il y a peut-être des vaches, il y a peut-être des poules que les parents ont. Ils sont peut-être sur une ferme. Il y a peut-être les voisins qui sont là et on va aller prendre le vélo pour aller chez le voisin. C'est beaucoup plus difficile de faire ça dans le centre-ville de Québec ou de Montréal parce que on va avoir peur. Que des gangs de rue soient là, qu'un voyou soit là, qu'un itinérant là apostrophe d'autres jeunes, et ainsi de suite. Et quelque part, ben, cette peur-là fait en sorte qu'on a tendance à dire à nos jeunes, je préfère qu'ils soient chez moi, ils jouent aux jeux vidéo, mais au moins je les surveille. Et ça nous donne une fausse impression de sécurité. Moi, j'utilise une expression, on a fait rentrer le loup dans la bergerie.
Effectivement, effectivement. C'est une très bonne expression. Est-ce que, parce que, tu sais, j'ai été reconduire un de mes amis à l'aéroport de Montréal avec son propre véhicule. Il voulait pas laisser son véhicule là, il voulait le laisser à Québec. Donc, je me suis dit, c'est beau, je vais aller te porter à Montréal. Puis, en montant, je m'étais pas aperçu de ça, mais lorsque je suis redescendu, j'essayais d'écouter la radio, voir s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant à écouter, que ce soit de la musique ou encore de la radio talk. Puis, je me suis aperçu que sa propre radio ne fonctionnait pas. Et là, je me suis dit, mais comment il fait pour être dans son véhicule, dans le silence total? Moi, après 2, 3 minutes dans le véhicule, puis peut-être qu'on est très contaminé, là, Joël, on va se le dire, là. Après 2, 3 minutes dans le véhicule, dans le silence, je me suis dit, hey, il me semble que ça me prend quelque chose à écouter. Pourquoi on est super stimulé comme ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de s'arrêter 30 secondes, juste de regarder le chemin, tout simplement, conduire, à rien dans le véhicule? Suis-je le seul à avoir besoin de stimulation quand je suis en auto, de stimulation supplémentaire, là?
Mais en fait, c'est toujours une question de choix, c'est toujours une question d'habitude. Comme tantôt au début de l'entrevue, on parlait de mon périple dans l'Ouest. Moi, je suis allé dans l'Ouest avec ma voiture. J'ai fait 12 000 kilomètres. Parce que sur place, j'ai besoin d'un véhicule. Les villages et les villes sont éloignés. Là où je fais mes interventions sont beaucoup trop éloignés. Donc, de toute façon, j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer. Et c'est moins coûteux d'avoir mon propre véhicule que d'en louer un sur place. D'accord? Mais j'ai fait des dizaines et des dizaines de kilomètres en silence. Et j'aime ça. J'aime le silence. Je te dirais que pour le retour, quand j'ai quitté Jasper pour revenir chez moi dans les Laurentides, c'est 4000 kilomètres, mais je dois avoir fait 75% de la distance en silence à regarder l'environnement dans lequel je suis, à repérer les fermes, à repérer les montagnes, à repérer les lacs qui sont là. Et j'avais fait ça, le premier voyage que j'avais fait en Alberta, ça m'avait permis de repérer des endroits, à me dire, hey, là, j'ai le goût d'y retourner avec ma famille. D'où cet été, en fait, ma conjointe et deux de nos enfants nous ont accompagnés. On est allés faire le tour des grands lacs parce qu'il y a des paysages fantastiques au Canada. Mais il faut prendre le temps de le faire. Alors, ce n'est pas parce qu'on a de la musique que nécessairement, c'est une mauvaise chose. Prenons soin de nous. Par contre, si le matin, j'écoute les mauvaises nouvelles à la radio, d'accord, mais automatiquement, je risque de m'inquiéter. On s'entend que il y a un paquet de choses qui ne fonctionnent pas dans notre monde, au Québec, au Canada, puis dans le monde en général. Il y a malheureusement plusieurs guerres qui nous conditionnent notre vie aujourd'hui, même si on est indirectement touché. Mais ça reste quand même que je vais avoir peur, je vais me craquer, je vais être furieux contre un camp, contre l'autre camp, je vais ramonner ou ruminer plutôt contre le gouvernement parce qu'il y a Norvol qui pose problème, parce que ceci ne va pas, parce que ceci, parce que cela. Mais ça fait en sorte qu'au moment où je vais arriver à mon travail, je vais être à cran. Je vais avoir de la difficulté à fonctionner. Je vais avoir de la difficulté à gérer mes employés ou mes patrons ou les clients avec lesquels je dois travailler. Je vais avoir de la difficulté à fonctionner sur place. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, l'accès à l'information ou l'accès à être continuellement stimulé vient conditionner, en fait, notre vie et fait en sorte que notre vie est de moins en moins agréable. Il est grand temps qu'on reparle de bien-être et qu'on reparle d'habitudes de vie. Écoute, en Alberta, ils viennent de séparer. Bon, tu sais qu'ici au Québec, on a M. Dubé, qui est ministre de la Santé, et on a Lionel Carman, qui est ministre des Services sociaux. Et en fait, c'est le même ministère, mais tu as deux ministres pour pouvoir gérer. Tu as un troisième ministre avec Mme Bélanger pour les aînés. D'accord, mais c'est trois ministres qui travaillent autour du même ministère, ministère de la Santé. Eh bien, en fait, en Alberta, ils se sont rendus compte qu'on allait dans un cul-de-sac de cette manière-là. Et la pandémie a augmenté, en fait, ce constat-là, parce qu'il y a plus de gens qui ont des problèmes de drogue et plus de gens qui ont des problèmes de santé mentale, plus d'itinérance. Donc, ils se sont dit, on va sortir les services sociaux et on va faire le ministère du bien-être. Donc aujourd'hui, il y a un ministère du bien-être. C'est comme si Lionel Carman était ministre du bien-être au Québec et sa seule fonction, c'est de s'arranger pour améliorer le bien-être. Donc on se rend compte que si on veut avoir moins de gens dans les hôpitaux avec des problèmes d'itinérance, avec des problèmes de consommation de drogue, avec l'usage de psychotropes parce qu'on est en dépression, on est hyperactif ou qu'on a malheureusement développé d'autres types de maladies psychiatriques, eh bien si on travaille sur le bien-être, on va avoir une société en meilleure santé. Mais pour ça, c'est un changement de culture. Peut-être qu'on est allé un peu trop dans un aspect curatif ou dans un aspect de surstimulation et qu'il faut revenir en arrière, en fait.
Tu avais rencontré les gens de la Coalition Avenir Québec. On t'avait confié des mandats, justement, d'étudier tout ça. Tu as rencontré des psychiatres, tu as rencontré des psychologues. Tu en es venu à quel... tu as écrit un dossier là-dessus, d'ailleurs, qui est disponible sur l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Tu en es venu à quel constat concernant l'ère numérique?
En fait, je dirais que c'était bien avant ça parce que mes premières constatations, c'est dans ma vie clinique que je l'ai vu il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai vu le changement parce que de fil en aiguille, quand j'accompagnais des adolescents, quand j'accompagnais des familles, je me rendais compte que c'était le premier point de discorde qu'on avait à l'intérieur de la famille. C'est le premier élément qui amenait de plus en plus de difficultés pour justement arrêter l'écran à un moment donné ou à un autre. Je voyais les jeunes qui avaient de moins en moins de tolérance envers un oui, un non. Ils avaient de moins en moins de tolérance par rapport aux besoins des autres, de moins en moins de tolérance par rapport à comment rentrer en relation avec l'autre. Puis quand je dis tolérance, c'est que la relation Tu sais, Yannick, on peut être des amis, mais on ne va pas nécessairement être toujours d'accord sur 100% des sujets qu'on pourrait aborder. Donc, ça crée des irritants, ça crée un dérangement. Mais comment est-ce que nos jeunes sont capables de gérer les irritants ou les petits dérangements au quotidien? Et le fait de s'échapper dans le numérique ou de devoir être le super-héros de son réseau social ou de son jeu vidéo fait en sorte que ça a amené beaucoup plus de difficultés à gérer l'autre. Je me souviens d'un adolescent il y a quelques années, il était dans mon bureau, il devait avoir 16-17 ans, puis il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps, puis il me regarde à un moment donné, il me dit: Joël, mais je fais comment pour rentrer en relation avec quelqu'un? Je ne sais pas le faire. Parce qu'il sait le faire sur un réseau social quand l'autre n'est pas là, quand l'autre est loin. C'est facile de se disputer ou d'envoyer promener quelqu'un, d'utiliser des mots qui ne sont pas nécessairement très encourageants ou encouragés. Quand l'autre est loin, c'est plus difficile d'envoyer promener quelqu'un quand la personne est face à nous. Puis on s'entend que si on ne connaît pas la personne et qu'on fait un doigt d'honneur dans l'auto, on ne reverra probablement jamais la personne. D'accord? Mais pour nos jeunes, c'est comment est-ce qu'ils font pour rentrer en relation? Regarde nos jeunes qui ont de la difficulté à ne pas avoir le téléphone cellulaire quand ils sont à l'école. Donc, plutôt que d'apprendre à socialiser à l'intérieur de l'école primaire ou à socialiser à l'intérieur de l'école secondaire, ils sont tout le temps sur leur téléphone cellulaire. Ça devient un échappatoire.
Mais
D'accord?
ça vient chercher la zone du plaisir, ça active de la dopamine dans le cerveau, on devient dopé par ça, ce qui fait en sorte qu'on en a toujours de besoin.
Oui, exactement. Puis c'est les mêmes zones en fait que la cocaïne. Donc quand une personne prend de la cocaïne, et ça ne va pas avoir le même effet dans le sens que l'effet de la cocaïne, c'est tu prends la cocaïne, puis elle peut faire effet pendant quelques heures, et l'effet va être diminué progressivement au fur et à mesure que la molécule est dégradée dans le corps, alors que le numérique, c'est on-off, tu l'as ou tu l'as pas. Mais on a la même chose. Et par exemple, le sevrage du numérique, ça prend 3 jours, comme ça va prendre ce temps-là également pour arriver à sevrer minimalement la personne pour ne pas qu'elle soit en état de manque parce qu'elle n'a plus sa cocaïne. Donc, oui, ça fait la même chose. Et ce qu'il y a de pire, c'est que quand il y a deux grandes autoroutes, si tu veux, pour pouvoir libérer de la dopamine dans le cerveau d'une personne, tu as la voie courte, d'accord, le plaisir immédiat, dans lequel va rentrer le numérique. Mais par exemple, quand tu vas prendre un chips, d'accord? Si on prenait le temps de laisser fondre le chips dans la bouche, on trouverait ça dégueulasse si on n'en mangerait pas. Okay? Pourtant, notre cerveau est leurré à cause de la graisse et du sel. Parce que ancestralement, on avait besoin de graisse et de sel pour être capable de survivre. Qui plus est, au Québec, à cause de notre hiver, il faut emmagasiner de l'énergie, de la graisse, pour pouvoir arriver, en fait, à passer à travers l'hiver. Donc, on a des vieilles mémoires qui nous poussent à manger plus gras que nécessaire parce que il en fallait, on n'avait pas de maison très chauffée il y a 200 ans, donc c'était notre petite enveloppe corporelle qui faisait la différence. Et donc, en fait, le cerveau est leurré. Donc, quand on prend un chips, on prend un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, parce qu'au fur et à mesure qu'on prend des chips, il y a de moins en moins de dopamine qui est libérée, donc on en veut de plus en plus. Ça va être la même chose avec du chocolat. Je prends mon premier morceau de chocolat. Ah, waouh, satisfaction immédiate. J'ai un draft de dopamine qui me dit: ah, c'est une bonne chose pour toi. Continue à manger du chocolat. D'accord? Puis je vais aller de plus en plus vite pour manger mon morceau de chocolat parce qu'il y a un phénomène d'habituation. Donc, quand notre jeune est dans le numérique, au début, ça libère de la dopamine et puis il va vouloir, 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 vouloir de plus en plus. Ça devient addictif. OK? Ça, c'est l'autoroute la plus rapide. Mais pour aller à l'école, quand on essaie d'apprendre quelque chose, que ce soit une règle d'orthographe, une date historique, un concept en géographie ou des résolutions de problèmes en mathématiques, eh bien, il faut accepter de se sentir incompétent quand on apprend quelque chose. Il faut accepter de faire et de refaire nos exercices pour devenir compétent. Il faut accepter de se préparer à un examen, de passer l'examen, d'attendre que le professeur la corrige et éventuellement, je vais avoir une bonne note qui me donnera de la dopamine. Mais toujours de manière moins intense que quand j'ai eu du plaisir immédiat. Donc, plus nos jeunes sont sur le numérique et plus les difficultés scolaires vont être de plus en plus grandes. Et ça, c'était déjà le deuxième constat que j'observais dans les années 2000 quand je voyais des jeunes être dans des difficultés, des jeunes qui avaient des bonnes aptitudes, mais qui ne sont plus capables de faire les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir réussir à l'école, pour s'engager dans une relation, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, pour contribuer aux tâches ménagères parce qu'il y a tout le temps une recherche de satisfaction immédiate.
Dans le dossier qui est disponible sur l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, il y a un passage qui m'avait marqué, c'est « Par ailleurs, jouer à un jeu vidéo dans lequel on construit un monde imaginaire, c'est une chose. Jouer à un jeu qui encourage autant l'impulsivité que l'agressivité pour tirer sur d'obscurs adversaires ou des zombies, c'est une autre. Plus la violence virtuelle est de mise dans le jeu, plus elle conduit à libérer beaucoup de dopamine. » Le cerveau est leurré et croit que l'action est bonne pour la survie de l'individu et ou de l'espèce.
Ouais. En fait, tu okay. vois, Yannick, je on crois. Va se projeter un peu dans l'histoire.
Ouais.
Si on est des habitants de Québec et il y a un drakkar viking qui attaque la ville de Québec, il
oui,
faut
monsieur.
La défendre.
Okay. Okay?
Au moment où on va combattre les vikings, il faut prendre sur nous parce qu'il faut du courage, mais au moment où on va couper la tête à un viking, on va avoir une draft de dopamine. La dopamine va nous dire « tu as fait une bonne chose parce que tu protèges ta communauté, tu protèges son environnement, tu fais en sorte que les gens que tu aimes vont aller bien, tu vas regarder ton grain, tu vas regarder tes animaux et ainsi de suite. » Donc, ce qu'il y a, c'est que ce sont des vieux réflexes nécessaires. On s'entend que si on était en Ukraine, ce serait bien utile ce réflexe-là, d'accord ? Mais toujours est-il que dans notre monde actuel, c'est le jeu vidéo va venir jouer là-dessus, va venir nous faire croire qu'on est un chevalier sans peur et sans reproche, va nous donner l'impression qu'on est, comment dire, des surhumains. Regarde le nombre d'influenceurs, puis on le voit ça de temps en temps dans la presse, où pour pouvoir avoir plus de clics, ils vont prendre des risques quand ils prennent des photos. Et malheureusement, régulièrement, il y en a qui tombent d'un building, il y en a qui tombent d'un précipice parce qu'ils ont pris des risques inconsidérés. Ils se croient surhumains. D'accord ? Et ça fait en sorte qu'on a la relation aux autres va être problématique. Et c'est ce qui peut expliquer notamment l'augmentation de la violence depuis la fin de la pandémie, où on a un crescendo en violence dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal et aux alentours. L'intimidation a augmenté. Et figure-toi que les premières entrevues que j'avais données il y a une dizaine d'années par rapport à l'impact du numérique, on s'inquiétait. Entre autres d'un jeu qui s'appelle GTA V, parce qu'il y a des groupes, notamment en Russie, qui reproduisaient les missions de GTA V, et il fallait faire quoi ? Voler une voiture, capturer une fille de joie, la maltraiter et la tuer en bout de ligne. Et donc, en fait, ça a encouragé des groupes à poser des gestes effroyables envers la communauté. Tu as la même chose avec les clowns. Il y a eu un moment donné où il y a plusieurs villes et plusieurs pays à travers la planète qui ont interdit les clowns de se grimer en clown parce qu'il y a des gens qui se déguisaient en clown et qui allaient effrayer les gens. Ils arrivaient sur une place publique avec une batte de baseball ou avec une fausse arme et c'était la panique majeure. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait toute une série de situations cocasses dans des films ou dans des jeux. Et donc, on voit en fait que les gens qui, à un moment donné, quand le jeu vidéo ou le film ne donne plus suffisamment de dopamine, ils ont besoin de transposer leur jeu dans la réalité. Et malheureusement, ça fait des choses effroyables. Tu te souviens, il y avait un gars qui, à Québec, s'est promené il y a quelques années avec un sabre.
Oui.
D'accord ? Puis on en a fait beaucoup parlé, mais peu de personnes ont parlé du fait que ce gars-là a reproduit une mission de je ne sais plus quel jeu. En fait, il était simplement en train de mimer dans la vraie vie un jeu. On a eu la même chose avec Fortnite. Ça, c'est en Nouvelle-Zélande où un gars s'est filmé, a diffusé en direct sur Facebook sa préparation. Et le fait qu'il reproduisait une mission de Fortnite pour aller tuer des religieux musulmans parce que il croyait que c'était une bonne chose, il reproduisait. Et c'est ça qui est particulier. On a l'impression parfois que ce n'est que chez les fous, comme on disait avant, mais non, c'est qu'il y a un moment donné où le cerveau est tellement conditionné d'une manière qui est problématique que les personnes qui ont moins de recul, moins d'éthique, moins de ressources pour se contrer, pour se ralentir, vont avoir les mêmes attitudes que dans le jeu. Donc, si mon jeune est tout le temps en train d'être batailleur dans son jeu vidéo, bien, cette énergie de bataille, eh bien, il va l'avoir avec son papa, sa maman, son professeur ou ses copains de classe, ses frères et sœurs. Et en fait, il s'entraîne à faire ça. Puis, il y a quelques années, on pensait que tu sais, par exemple, tu as dû connaître les Rambo et les, Les Rookies,
Oui.
à cette époque-là, on avait l'impression que ce type de film-là avait un effet qu'on appelle, le mot exact, c'est l'effet cathartique, ça veut dire un effet de libération de la colère. Donc, les films de Steven Seagal, par exemple, où on voit Steven Seagal qui fait des prises de judo, de karaté, qui sauve la veuve et l'orphelin, eh bien, avant, on pensait que ça permettait de libérer les tensions, l'agressivité des uns et des autres. Mais aujourd'hui, les trucages sont tellement poussés et la perte de contact avec parfois la réalité est tellement forte chez certaines personnes qu'au contraire, ça potentialise l'agressivité.
Incroyable. Tu m'apprends beaucoup de choses ce soir. Je vais être stressé là, en fin de semaine avec mes enfants de leur parler de ça parce que nécessairement, je vais leur parler des jeux vidéo. Tu m'as nommé Fortnite. Mes gars jouent à Fortnite. Fait que je vais devoir avoir une petite discussion avec. J'ai plein d'autres choses à te jaser après la pause, Joël. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir de jaser avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. On peut te retrouver sur joelmonzé.com. C'est encore valide, ça?
Oui, tout à fait.
Ou sinon, le document qu'on est en train de discuter avec vous ce soir sur l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, il est disponible. On fait une courte pause, on revient.
Marceau, le soir. Marceau, le midi.
Salut, c'est Marceau. Vous le savez, ce vendredi, au Centre Horizon, je me bats contre Steven Sullivan, alias Gros Gorille de la Ligue NSPW pour amasser des fonds pour la fameuse bouchée généreuse. La gang de Boulevard 102.1 va être présente et le groupe Big Muff Party Band va être là aussi et vous donnera tout un show. On parle d'un show rock des années 90 à 2000. Bref, une soirée pour venir me huer et ou m'acclamer. L'important, c'est de remettre un beau montant aux gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour manger à leur faim. Achetez vos billets sur lepointdevente.com et l'argent, tout l'argent des billets va être remis à l'organisme La Bouchée Généreuse. Donc, un rendez-vous ce vendredi, 20h, au Centre Horizon.
Pour ton rattrapage de Marceau le midi, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
Boulevard 102.1.
Faites du bruit pour les Remparts de Québec et leur retour au Centre Vidéotron pour la saison. Cette semaine, écoutez Boulevard 102.1 pour connaître le score du jour et allez l'inscrire sur le blvd.fm. Vous pourriez gagner votre paire de billets de saison, incluant le kit de fan numéro 1. Boulevard 102.1 et les Remparts de Québec, l'équipe gagnante de vos divertissements sportifs à Québec.
Go Remparts, go!
Pourquoi le Mazda CX-30 est-il un VUS à découvrir? C'est l'un des meilleurs choix de sa catégorie selon Protégez-vous, avec sa traction intégrale iActive de série et sa garantie à kilométrage illimité. En plus, il est présentement offert à partir de l'équivalent de 95 $ par semaine. Oui, 95 $. Découvrez le Mazda CX-30 dès aujourd'hui. L'offre prend fin le 30 septembre, location 48 mois à compte de 1005 $. Paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Propriétaire, êtes-vous prêt pour les défis de la saison? Drain Solutions est là pour vous. Spécialiste du nettoyage et de l'inspection des drains, on protège votre maison contre les infiltrations d'eau. N'attendez pas que le pire arrive et prévenez en faisant appel à notre expertise. Tapez maintenant drainsolutions.ca.
OK, Patricia, si je te parle de synergie, de professionnalisme, d'authenticité, de compétences en immobilier à Québec.
Ben c'est facile. Tu parles de mon équipe.
Chez Patricia et son équipe, on s'occupe de tout. On s'occupe de vous, de A
à vente.
Patricia et son équipe.com.
Tournez à droite. J'ai dit à droite.
Chérie, trouves-tu que l'auto est un peu bête ces temps-ci?
L'autre droite.
Ben, depuis que j'ai planifié son remisage dans sa clique, j'ai l'impression que...
Tu penses qu'elle sait qu'elle va être remisée?
Ben...
Ce que je sais, c'est que vous venez de rater la sortie.
Votre voiture va s'en remettre. Faites votre remisage par anticipation dans SACLIC pour fixer une date à l'avance et avoir l'esprit tranquille. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
L'automne approche. Profitez des températures douces pour installer votre nouvelle thermopompe avec EnviroConfort. Économie, moment cocooning et chaleur garantie. Visitez EnviroConfort.com pour découvrir nos offres spéciales de la rentrée. EnviroConfort, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
La garantie prolongée de Paquette Mitsubishi dure très, très longtemps. Mais pour l'obtenir sans frais, il faut faire vite, vite, vite. Dernière chance pour profiter de la garantie prolongée sans frais sur tous les VUS 2024 de Paquette Mitsubishi. Ça vaut jusqu'à 3 750 $, 10 ans, 160 000 km, même sur le Outlander PHEV. Plus rabais fidélité de 1 000 si vous roulez déjà en Mitsubishi. La meilleure garantie du marché est encore plus meilleure. Détails chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
Que vous soyez un passionné de pickleball ou un marcheur enthousiaste, ne laissez pas l'inflammation articulaire vous ralentir. Peu importe l'âge ou le niveau d'activité, vous méritez de bouger sans douleur. Gynacol anti-inflammatoire soulage l'inflammation et les douleurs articulaires. Ses propriétés anti-inflammatoires, offertes par le curcuma, en font un produit naturel efficace mais doux pour l'estomac. Essayez-le. Gynacol anti-inflammatoire est en rabais à $21.99 chez Proxim jusqu'au 25 septembre. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Gynacol, tu me fais du bien.
C'est la saison des rituels au Stroms-Spa Nordique. Pour l'occasion, à l'achat de 3 entrées à l'expérience thermale, obtenez la 4e gratuitement. Détails au stromspa.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
L'École des Ursulines de Québec célèbre 385 ans de vocation éducative. Il s'agit de la seule école privée à offrir le programme Trilingue Vision et le baccalauréat international au primaire. Activités parascolaires, sportives et culturelles sont également offertes. Visitez-les à la journée porte ouverte, samedi 28 septembre de 10 à 15 heures.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
L'événement Prix Employé se poursuit en septembre et c'est votre dernière chance d'en profiter. En incluant les remises gouvernementales, obtenez jusqu'à 12 000 $ en ajustement de prix total sur l'Escape hybride rechargeable 2024 et jusqu'à 16 500 $ sur le Mach-E Premium 2024. Desjardins Autocollection, rue Marais à Vanier.
La nouvelle web radio de Boulevard.
Parce que ce que ta voisine de cubicule a fait en fin de semaine passée, tu t'en crois.
La nouvelle web radio de Boulevard. À deux clics du bonheur.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Encore une fois, un plaisir ce soir de discuter avec le docteur Joël Monzé, docteur en neurosciences. On parlait des jeux vidéo tout à l'heure. J'espère que les parents ne feront pas de cauchemars ce soir. Ça peut être positif dans certains cas quand c'est bien utilisé, les jeux vidéo. D'autres, ça peut être dommageable pour ce qui est de nous-mêmes et même de nos enfants. Est-ce qu'il y a des effets psychiatriques qui ont été observés, Joël, avec les enfants qui jouent à des jeux vidéo?
Oui, en fait, on voit que certains jeunes, en fait, vont tomber dans certaines formes de comportements qui s'apparentent à de l'autisme, donc de la difficulté à rentrer en communication avec les uns et les autres. On va voir des jeunes qui vont avoir beaucoup plus de comportements d'impulsivité. Tu sais, au Québec, on a entre 17 et 24% des jeunes qui ont reçu un diagnostic de TDAH au Québec. D'accord. Or, les chiffres mondiaux, on va parler de 5-6%, même l'INES, l'Institut national de l'excellence en santé et en services sociaux du Québec, parle de 3 à 5% de jeunes qui devraient avoir un diagnostic de TDAH. Donc, ces jeunes-là ont pour de vrai, probablement, un vrai TDAH dans cette proportion-là. Mais tous les autres, d'accord? Donc, je parle entre 3 et 5 %, mais je dis entre 17 et 24 % selon le mois de naissance. Tous les autres, c'est probablement des habitudes de vie qui les conduisent à ce genre de comportement-là. Donc, parce que, justement, ils sont un truc... Alors, ce n'est pas que les jeux vidéo. Ça peut être la famille qui rencontre des choses difficiles. Ça peut être la pauvreté qui peut être là. Ça peut être un enseignant qui, malheureusement, a de la difficulté dans la gestion de classe et qui, parfois, il est un peu plus rude que ce qu'il aurait envie d'être. Et le jeune, après, va être moins, comment dire, réceptif aux mesures disciplinaires et ainsi de suite. D'accord? Donc, il peut y avoir un certain nombre de facteurs. Le jeu vidéo n'est qu'un des jeux ou un des éléments. Mais pour pas que les parents aient trop peur, moi, ce que j'ai envie de comparer, c'est la même chose qu'avec l'alcool. Je n'ai pas d'addiction à l'alcool, même si je prends un verre de vin rouge à tous les jours. D'accord, je sais que tu avais fait une super belle émission il y a quelques mois sur la prise d'alcool, donc je ne vais pas venir là, sur cet élément-là, mais je veux juste par rapport à aider à comprendre. Si le jour où je n'ai pas mon verre de vin rouge, d'accord, c'est correct, je prends de l'eau, de la grenadine, n'importe quoi d'autre, je me fais une tisane et pendant 2-3 jours, je ne consomme pas de vin parce que je n'ai pas le goût d'aller jusqu'à la sac du coin. Même si j'en prends d'une manière régulière, je n'ai probablement pas un problème. Si par contre, je ne suis pas capable de tolérer de manquer mon vin rouge à tous les jours, là, c'est une première trace d'addiction. OK? Si éventuellement, je prends un verre de vin rouge, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et que je passe à travers ma bouteille, j'ai un problème d'addiction. Si ce n'est pas du vin que je prends, mais du whisky que je consomme la même quantité à tous les jours, j'ai un problème d'addiction. Donc en fait, on voit que ce n'est pas parce que nécessairement le jeune fait un jeu vidéo que nécessairement il va y avoir une problématique. On va regarder comment fonctionne notre jeune. Si notre jeune est capable de jouer une demi-heure, fait un jeu de course par exemple, ou fait un jeu de recherche, ou fait un jeu de chevalier à la rigueur, et qu'au bout d'une demi-heure, il arrête, qu'il est de bonne humeur, qu'il contribue à la vie de famille, qu'il est capable d'interagir avec les autres, moi comme parent, je ne m'inquiéterais pas trop par rapport à la manière dont mon jeune fonctionne. Mais s'il n'est jamais capable, il est toujours de mauvaise humeur quand il arrête, s'il est toujours de mauvaise humeur quand il est, par exemple, en visite, d'accord, ou en camping, et qu'il n'y a pas l'accès aux jeux vidéo, ou qu'il a besoin d'avoir des jeux de plus en plus violents et de changer de plus en plus souvent de jeu, là, ce sont des indicateurs qui me disent « Ok, mon jeune est un peu plus fragile, faisons attention pour éviter justement qu'il ne développe des habitudes de vie qui seraient toxiques pour lui. »
Je parlais avec un chercheur de l'Université Laval qui a été un professeur d'éducation physique, puis maintenant il est chercheur, et il me racontait que des étudiants de l'Université Laval de 21, 22, 23 ans avaient des problèmes de motricité fine. Ce qu'il n'avait jamais vu là, dans les 20 dernières années, là, ben maintenant, ça apparaît à l'Université Laval, c'est que les gens ont de la difficulté avec leur motricité et ce serait, selon lui, associé aux jeux vidéo.
Mais écoute, c'est parce que moi, ce que j'ai envie de te dire, ça va même beaucoup plus loin parce que c'est toute la problématique de sédentarisation. Puis,